Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Toute personne qui connaît la maison de la radio, à Paris, sait qu'une mosaïque de Jean Bazaine couvre l'intégralité d'un pan de mur du foyer B. Et tous les Parisiens connaissent l'œuvre du peintre Jean Bazaine. Enfin, tous ceux qui prennent le métro, puisqu'il est l'auteur de la décoration de la station Cluny-La Sorbonne sur la ligne 10. Mais, bien entendu, si Jacques Lang, alors ministre de la Culture, lui a passé cette commande, c'est que Bazaine était un des grands peintres français du XXe siècle, figure majeure de la Nouvelle École de Paris, avec Édouard Pignon, Nicolas de Staël ou encore Tolkot ou Hans Hartung, bien connus tous dans le monde entier. Bazaine a fréquenté nombre de théoriciens et artistes de son temps comme Emmanuel Mounier. Il collabora d'ailleurs à la revue Esprit. Il travailla avec Jean Villard, Maurice Blanchot et exposa avec Calder. Son œuvre est vaste, décoration de lieux publics certes, mais il est aussi l'auteur de vitraux d'église, de tapisseries et de lithographies qui illustrèrent des livres de Raymond Queneau, Jean Tardieu, Marcel Arlan, Claude Esteban et de bien d'autres. En 1992, il avait alors 86 ans, Jean Bazaine avait longuement parlé de sa vie et de ses travaux avec Lucien Hatoun.
Jean Bazaine, nous sommes dans votre atelier et vous êtes un peu tranquille puisque je crois que vous vernissez.
On ne vernit pas, mais enfin,
oui.
Ça ne se fait plus.
Ça se faisait.
Vernir les tableaux, mais enfin bon.
C'est fini. Mais alors, vous êtes débarrassé, vous êtes libéré.
Oui, j'ai mon atelier vide, je repars à zéro.
Votre peinture, c'est un peu vos enfants, pour prendre une image. Ils sont partis.
Oui.
Ils sont partis, là.
Oui,
ça
oui,
vous fait rien?
Non, c'est ma demande la même chose. Non, parce que je pense toujours aux toiles futures.
Toiles
et puis, qu'il m'arrive de temps en temps, 40 ans après, de les revoir. Et ça me fait plaisir. Parce que je me retrouve quand, un peu de... Je me vois en train de les peindre, si vous voulez. Alors, ça me rajeunit tout d'un coup de 40 ans, de 50 ans. Mais qu'elles partent, ça m'est égal... D'abord, souvent, je sais où elles vont. Et puis, je vous dis, je pense toujours à la toile à venir.
Oui, ça fait longtemps que vous pensez aux toiles à venir, parce que je crois
ça
que...
Ça fait plus de 60 ans, oui.
Oui, oui. Vous avez, au départ, vous m'aviez dit que vous aviez fait des études de philosophie, c'est ça?
Ben oui, j'ai
fait une
licence de philo, parce que ça m'intéressait, puis que mon père était un peu inquiet, je voulais être sculpteur à l'époque, de me voir prendre évidemment choisir une profession peu rentable.
Vous avez bifurqué.
Et puis j'ai eu la chance, alors étant à la Sorbonne, de connaître Faucillon et de faire partie du de fonder le groupe d'histoire de l'art, qui a proliféré depuis.
Mais vous aviez quel âge? Parce que vous êtes né le 21 décembre 1904
oui,
à Paris.
Oui, âge absolument.
Oui, vous aviez quel âge à cette époque-là?
86 ans.
86 ans. Et à l'époque où vous avez fondé ce groupe d'histoire de l'art, où vous avez participé?
J'avais 19 ans.
19 ans. Au fond, vous avez fondé beaucoup de groupes, finalement, tout au long de votre vie. Vous avez été à l'initiative d'un certain nombre de choses.
Non, pas tellement.
Écoutez,
non. Pendant l'occupation,
oui.
Là. Mais il faudrait peut-être que je vous parle d'abord de
ce que vous voulez.
De cette institution de Jeune France qu'on connaît plus très bien,
oui.
Et où j'ai connu Villard. Alors voilà, c'était donc une institution subventionnée par l'État. Et qui groupait des artistes de toutes sortes.
Elle a été créée à l'initiative de Pierre Schaeffer, m'a-t-on dit.
Non, Pierre Schaeffer a été le, le directeur général, si vous voulez. Il y avait un groupe en zone libre, où était Schaeffer, et un groupe en zone occupée, qui était dirigé sous la haute direction de Schaeffer par Paul Flamand.
Le futur directeur des éditions du Seuil.
Paul Flamand, pendant 30 ans, le très courageux directeur des éditions du Seuil. Et alors, en zone libre, il y avait Albert Olivier, Claude Roy, des gens comme ça. On a eu du mal à trouver une galerie. Et puis surtout, j'avais donné un titre très rassurant qui était « 20 peintres de tradition française ». Parce que je ne voulais pas que les Allemands, comme ils le faisaient, mettent le nez dans et voient qui j'exposais. Oui. Bon, on a fait l'exposition chez Braun. Je vais vous raconter rapidement. Le jour du vernissage, on n'emmenait pas très large, sont entrés deux officiers allemands, très chamarrés. Ils se sont regardés, ils ont fait une salut militaire, ils sont sortis. Et nous avons été alors éreintés par toute la presse. C'était la peinture judéo-marxiste, c'est-à-dire ce qu'on faisait de pire. Mais l'exposition avait eu lieu et ça a donné confiance à beaucoup de galeries, parce que les Allemands, c'était encore la période où, de collaboration, et ils voulaient qu'on les aime. Alors, ils ont rien fait. Moi, si, hein, parce que j'ai fait un article qui ne leur avait pas plu. Bon, ça, c'est une autre question. Et donc, l'exposition a eu lieu, et à partir de ce moment-là, les galeries ont commencé timidement à rouvrir et à montrer de la peinture, de la vraie peinture, voilà.
Il y a eu Jeune France. Il y a eu aussi Uriage.
Ah, mais ça, c'était
c'est autre chose. C'était oui, les intellectuels, Hubert Bevmery et d'autres, qui se sont retrouvés pour redonner à la France quelques vérités, quelques valeurs, et en disant, on va se servir du système. On va se servir de ce qu'est l'État français actuel, de Pétain, et nous, on va faire autre chose. Est-ce que c'était vraiment possible? Est-ce que ça n'était pas naïf? Est-ce que vous pouviez être subversif?
Je veux dire, en ce qui me concerne, je n'ai fait que ça. La seule chose que j'ai fait... Et puis, j'ai placé quelques amis. Il y avait Manessier qui était à la campagne.
Et qui est votre voisin actuel.
Oui, qui est maintenant mon voisin.
Actuellement, oui.
À ce moment-là, il n'avait pas le sou, il se nourrissait des pommes de terre qu'il plantait. Il s'éclairait à la bougie. Ce qui, d'ailleurs, lui a fait du tort. Après, on a dit que c'était pour faire plaisir au maréchal qu'il s'éclairait à la bougie. Vous comprenez? Bon. Alors, je l'ai appelé et je lui ai trouvé un petit poste où il gagnait un peu sa vie. Estève aussi. Et puis Lapique aussi.
Donc vous vous alliez ruser?
Oh, non, c'est-à-dire qu'on ne faisait rien qu'il soit maréchal, me voilà.
Oui, non, vous alliez ruser contre, en utilisant la situation
et
un visage découvert.
Oui,
c'était un risque alors?
Non, c'était pas très... Si, c'est le risque qu'on nous limoge. Et c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, ça n'a pas duré un an.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musée d'or. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers.
Au fond, si je vous demandais de faire une galerie de portraits, comme ça, vous avez traversé 86 ans.
J'ai traversé le siècle, oui. Voilà.
Alors, vous avez eu la chance de connaître des gens qui étaient déjà importants au début du siècle et d'autres qui allaient le devenir. Je veux dire, si je prends les peintres, je cite Bonnard d'un côté et Braque de l'autre, par exemple.
Oui. C'est-à-dire qu'au début du siècle, pour tout vous dire, mon père était dans l'aviation. Et toute mon enfance s'est passée sur les champs d'aviation. C'est peut-être pas intéressant que je vous raconte ça. Dans les débuts de l'aviation, c'est-à-dire pendant la guerre de 14. Et j'étais, si on peut dire, à tu et à toi, parce que non, avec Guilmer, Nagesser, j'ai des photos de moi avec Roland Garros, en se me tenant par la main, etc. Et tous ces gens-là, bon, bah, comme mon père, qui dirigeait, bon, il a eu des débuts difficiles, mon père, puis à moi, il dirigeait. Une maison Nieuport, c'était l'avion de chasse de la guerre, quoi. Et ben, lui était très copain avec tous ces gens-là. Alors moi j'en faisais autant, il disait même, écoute, tu pourrais, t'es pas obligé de tutoyer Guilmer, quoi. Bon. Bref, ce sont des souvenirs très précis et très merveilleux que l'atmosphère de ces débuts, de vraiment le temps où on mettait l'hélice en route à la main, etc. Moi, j'apprenais la bicyclette sur le terrain. Et puis, bon, je me suis... Nous ne sommes pas là pour parler de moi.
Non, mais en même temps, vous avez...
Je veux dire, alors, les gens que j'ai connus...
Par exemple, enfin, bon, je veux tard, dire, si on prend de littérature, il y a eu Proust aussi, je crois. Enfin,
bon, bah, alors, il y avait Proust qui, que je n'ai jamais vu, oui. Mais que mes parents connaissaient. Bah, on parlait toujours de Marcel avec beaucoup de tendresse. Et je disais, mais pourquoi on ne l'a vu jamais à dîner? Mon père me dit, oh, tu sais, il vit très seul, il ne sort pas. Mais mon père et ses frères parlaient de lui avec tendresse.
Mais en tous les cas, Bonnard, vous l'avez connu un petit peu.
Oh, beaucoup.
D'ailleurs, il y a un tableau chez vous.
J'ai un petit tableau là.
Que vous cachez, là.
Qui est caché parce que...
Avec un tissu violet.
C'est pas un tableau, c'est un dessin qui est fragile.
À cause du soleil.
Mais Bonnard, je l'ai connu à ma première exposition.
En 32.
En 32, rue de Seine. Alors, je l'avais écrit comme on écrit au Père Noël, beaucoup moins sûr de le voir arriver. Et puis, j'ai vu arriver un monsieur que je ne connaissais pas, modeste, très modeste, mais fait d'élégance, d'élégance modeste, quoi. Il avait une veste de tweed, un chapeau mou, et puis, ses lunettes, un regard... Alors ce monsieur a commencé à tourner autour de mon exposition. Ce sont d'ailleurs des toiles dont il ne reste rien parce que ça a brûlé avec mon atelier en 1945 parce qu'à l'époque je ne vendais pas grand-chose. Et puis alors, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Je suis Pierre Bonnard ». Et à ce moment-là, le sol s'est entrouvert sous mes pieds. Il m'a parlé très très gentiment de ma peinture en me disant « Ça ne ressemblait pas du Bonnard, mais il m'a dit je suis content de voir un jeune qui travaille un peu dans le même sens que moi, etc.
Alors,
je l'ai beaucoup revu, je l'ai beaucoup revu plus tard, alors, quand j'étais chez Carré, pendant l'occupation. Et alors là, je le voyais assez souvent.
Mais est-ce que vous pensez que Bonnard a la place qu'il mérite dans l'histoire de la peinture contemporaine? Est-ce qu'il est bien connu aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait pas être plus impressionnant encore, si j'ose dire?
Oui, vous avez raison, il est moins connu que Picasso.
Que vous avez connu.
À mon avis, il est plus grand peintre. À mon avis, c'est le plus grand peintre du XXe siècle.
Même Braque?
Braque, c'est autre chose, il est à part. Oui, c'est un très grand peintre aussi.
Même Matisse, que vous avez connu
aussi,
je crois.
Matisse, j'aime énormément, oui. Braque et c'est le trio. Mais Matisse, je ne l'ai pas connu. Tandis que Braque, je le voyais très souvent. Je suis allé souvent à Varangeville. J'allais souvent chez lui.
le parallèle Braque-Picasso est très souvent fait. Qui a commencé? Lequel a pillé l'autre?
Ben moi je connais la réponse.
Ah, voilà, voilà.
Je connais la réponse par Braque, qui m'a dit, je parlais tout le temps, très souvent, le Pic-Pic, il l'appelait Pic-Pic, toujours.
Pic-Pic-Picasso?
Oui, Pic-Pic. Ah, j'ai vu Pic-Pic ce matin. Il est furieux parce que j'ai travaillé pour l'église. Et il m'a dit, moi aussi, si je voulais. Bon. Alors, il m'a raconté ses débuts. Il m'a dit, je cherchais. La phrase habituelle de Braque, c'était je n'ai jamais su ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire qu'il avait avancé parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Dieu sait que c'est ça.
Et en face, mot vrai. En face, Picasso répondait, je ne cherche pas, je trouve.
Oui, mais attendez, voilà. Alors donc, il cherchait là. Arrive Picasso, qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors Braque dit, bah, je cherche aussi. Hein. Oh, mais quel intérêt ce que tu fais? Ça ne mène nulle part. Exit Picasso. 15 jours après, Braque va le voir chez lui. Picasso avait fait 30 tableaux cubistes. Et c'est à la suite de ça que, me dit Braque, il est allé et il est parti dans le Midi et il a fait d'admirables paysages cubistes dont beaucoup sont en Suisse. Et Picasso n'a jamais fait de paysage. Il en a fait un ou deux, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais enfin bon, ils ne sont pas séparés pour ça.
Ça, c'est pour le cubisme. Mais...
Ça, c'est pour le cubisme.
Et il y a d'autres choses.
Et ça s'explique
le sable, le collage, tout ça.
Ah ben, le collage, j'en faisais tous beaucoup. J'ai très bien connu aussi Laurence, qui était un être exquis. Et très, très méconnu. Hein. Il gagnait difficilement sa vie. Mais il était adorable, joyeux, affectueux. Je passais souvent un peu en fraude en Belgique avec des tableaux que je montrais aux douaniers en disant c'est des projets de décoration. Alors ils disaient, j'ai passé un certain nombre de tableaux comme ça et j'ai pu passer des choses de Laurence.
Laurence
est tout
et méconnu. Mais Laurence est méconnu.
Méconnu?
Oui.
Ah ben absolument.
C'est normal.
Et beaucoup moins connu qu'un sculpteur que j'aime pas du tout, c'est Henry Moore.
Mais vous n'aimez pas Henry Moore?
Ah non, je l'aime pas. Je trouve ça pompier. Il n'y a qu'à voir les dessins qui... Le dessin, ça ne trompe pas. Hein.
Alors Picasso dessinait beaucoup. Très bien, vous savez.
Très bien.
On disait qu'il dessinait comme Ingres.
Mais Moore dessinait comme un pompier. Il n'y a qu'à voir c'est les dessins qu'il faisait dans le métro. Pendant le Blitz de Londres, c'est des dessins de pompiers, absolument, ça n'a aucun intérêt. Quand Moore creuse une forme, c'est un trou. Mais quand Laurence ouvre une forme, c'est un espace. L'un est plein de trous et l'autre est plein d'espace.
Il y en a qui passent à travers les trous. Il y en a qui remplissent l'espace.
Moi, j'aime pas. Et puis, on sent le réalisme derrière, et cette espèce de réalisme déformé. Tandis que Laurence, bon, c'est l'épanouissement d'une forme.
C'est la sensualité, peut-être, aussi.
Oui, oui, si vous voulez, mais au sens très large du mot. Hein.
Ah oui, bien sûr, oui.
Oui, oui.
Sûr. Mais vous parlez de Braque, mais Braque pour vous aujourd'hui, c'est la couleur, c'est le trait, c'est le mouvement. Oh, c'est une barque de sur la plage de Braque.
C'est difficile d'isoler chez un peintre. Ça se coupe pas en morceaux la peinture. La couleur est une chose chez lui, une chose tellement profonde et d'une vérité réinventée, si forte.
Mais je reviens quand même au parallèle avec Picasso. Tout d'un coup, je pense que j'ai dû voir, comme beaucoup de gens, une colombe célèbre de Picasso.
Oui, c'était un pigeon.
Un pigeon, voilà. Et puis, il y en avait aussi une de braque, non? Il y en a une de braque.
Ah bah oui,
voilà,
j'en ai une là.
Voilà, elle est voilà.
J'en ai une là qu'il a donnée à mon fils.
Voilà, c'est pas la même.
Ouais.
C'est pas la même.
Mais on a fait beaucoup d'oiseaux.
Oui.
Et c'est quelques-uns de ses plus beaux tableaux, je trouve. Il avait entre 70 et 75 ans, je me souviens. Je voyais beaucoup à ce moment-là. Et c'était des intérieurs d'ateliers assez noirs, avec des traits qui indiquaient des objets, et un immense oiseau qui traversait l'atelier. Et lui qui travaillait très très lentement, hein, parce que je l'ai vu travailler ça, sa femme qui était adorable, disait que ces tableaux lui ont été donnés. Mmh. Il a fait 4 ou 5 tableaux d'atelier comme ça, en quelques mois. Alors que, bon, souvent même il reprenait, c'était pas toujours heureux d'ailleurs, il reprenait des tableaux 10, 15 ans après. Il était très, très inquiet, Braque. C'était pas du tout le monsieur sûr de lui, il avait qu'à voir son regard. Et puis ce hein qui vous jetait par-dessus son épaule tout le temps.
Il n'était pas un peu collégien aussi à une certaine époque, l'esprit. Parce qu'on voit aussi dans des. Je l'évoquais, l'exposition parallèle que j'avais vue à New York, et au Musée moderne de New York, et on voyait les deux ateliers, par exemple Picasso et Braque. Et on a l'impression que c'était deux jeunes gens un peu en train de s'amuser aussi, ils aimaient bien ça.
Bah, je sais pas, j'ai bien connu l'atelier de Braque, puisque, et aussi son atelier à Varengeville. Non, il y avait. Vous savez, Braque, c'était curieux parce que la personnalité de Braque débordait sur tout ce qui l'entourait. Sa chambre, c'était une cellule, toute blanche, avec un petit lit, et rien, une vraie cellule. Et son atelier, c'était aussi très, très, très bien rangé, très. Il y avait un grand rideau oblique derrière lequel il cachait les. Et juste une plante qui courait. Je ne sais plus ce que je voulais dire à ce propos.
Je vous posais la question par rapport au côté un peu jeune
mais,
collégien.
Non, j'ai vu Braque. Je vais vous dire. Bon, tant pis, je me lance dans l'histoire.
Il faut.
C'est l'histoire d'un prix qui devait être donné à Laurence, à un prix de la Biennale de Venise. Et Laurence se réjouissait, ils m'ont parlé, « Oh, c'est chouette, je vais pouvoir m'acheter une deux chevaux. Oh, c'est chouette, c'était son mot. » Et puis, bon, il a pas intrigué du tout. Et c'est un autre sculpteur que je n'aime pas, qui a intrigué à Venise et qui a eu le prix. Un sculpteur très connu.
Si vous me donnez l'année, je vais savoir qui. Alors, qui c'est ce sculpteur très connu? Mais vous ne m'aimez pas. Bon, c'est pas par gentillesse que vous ne donnez pas son nom, alors.
Que quoi?
Que vous ne donnez pas le nom du vainqueur.
Ah ben, c'est parce que je l'ai oublié.
Vous l'avez oublié.
Non,
C'est significatif, peut-être.
Hein?
C'est significatif que vous l'ayez oublié.
Oui. Il est très, très célèbre. Et alors, ça a indigné tellement de gens que, avec le fils Laurence, nous avons organisé un immense banquet chez Big Boy, qui était un restaurateur de Puteaux, qui faisait des collections de tableaux, qui était voisin de Villon, et chez qui on allait comme ça. Bon. Et à ce banquet, il y avait tout le monde. C'est absolument merveilleux, en l'honneur de Laurence. Et vous me parliez de Braque. Et je me souviens, je vois encore, c'était très gai, et je vois encore Calder, qui était sous, comme toujours, se jetant sur le petit Miro pour danser avec lui. Miro effarouché comme une jeune vierge. Et je vois Braque se fabriquant des masques. J'ai même une photo, mais je ne sais pas où elle est. Se fabriquant des masques avec les serviettes en papier. Ah oui. Et ça a été une soirée merveilleuse, et Laurence m'a dit après, écoutez, ça me fait beaucoup plus plaisir que si j'avais eu le prix.
Alors, vous parlez de masques, et la liaison est tout trouvée, et je reviens toujours à Braque, et je reviens toujours à Picasso. Les masques africains.
Oui.
ça, quand même, l'art africain a eu une importance par rapport à la naissance du cubisme.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Alors
Là, je pense que c'est plutôt Picasso.
Parce que dans l'atelier de Picasso, il y a par exemple des masques africains.
Mais oui, absolument.
Et des instruments de musique
et
aussi.
Je n'en vois pas dans l'atelier de Braque, dans mon souvenir. Hein. Mmh. Bon, il en avait, en effet. Non, Braque, chez lui, il avait par exemple un Cézanne. Un merveilleux Cézanne, très peu ébauché. Et il me disait, ben, ça c'est une toile pour les peintres. Parce que c'était admirable, il y avait tout. Il y avait tout, mais avec presque rien.
Vous êtes de ceux qui continuent à dire aujourd'hui que Cézanne a ouvert la porte à toute une
peinture. Oui, ben, ouvert même...
A précédé oui, même.
À tout le monde. Mais je me rappelle très bien que Léger, alors que j'ai connu moi, oui. Mieux que personne, et puis j'étais copain avec Léger. Braque, je l'ai toujours appelé Monsieur Braque. Tout le monde l'appelait Monsieur Braque. Même si j'allais très souvent chez lui. Mais Léger, c'était Léger, quoi.
Il y a un Léger ici aussi, non?
Oui, un beau Léger qui m'a donné. Et je me rappelle, Léger disait, j'en ai mis du temps à me débarrasser de Cézanne. Mmh. À les mettre, c'est ça, ça sert aussi bien à les nier.
À les haïr, même.
À les haïr,
oui.
Enfin, ils sont là.
Mais je ne vais pas vous demander quel était votre maître, vous.
Oh ben je ne sais pas, moi, c'est Cézanne, c'est...
Et alors, je vais vous poser une mauvaise question, parce qu'il ne suffit pas d'être maître. Est-ce que
c'est
vous...
trop facile.
Trop facile. Et est-ce que vous avez des gens que vous avez impressionnés aujourd'hui? Vous avez un héritage?
Oh, ben ça, j'en sais rien, là.
Est-ce que vous avez des gens que vous aimez dans la nouvelle génération?
Ben, je connais mal les jeunes peintres, et c'est toujours comme ça. Hein. Si je connais la génération juste après moi... Comme ouais. Debray, par exemple, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire les types qui sont des jeunes de 60 ans.
Qui aiment beaucoup le théâtre, lui aussi.
Ah oui, il a fait des rideaux superbes.
Il a le rideau de la Comédie française.
Absolument. Ouais. Mais bon, bah, après...
Après, c'est l'histoire qui tranchera.
Oui, c'est ça. Et puis, alors, il y a toute une partie de l'art que je ne pige pas.
Quoi. Oui, mais on va y revenir. Mais alors, vous avez parlé de Villon.
Oui, Lyon, c'est un ami aussi.
Et donc, si on reste dans cet art qui allait contester et bouleverser un peu les choses, on peut parler de Villon et on peut parler aussi de Duchamp.
Ah, oui.
Non?
Ah ben si vous voulez.
Il a connu Duchamp.
Je n'aimais pas beaucoup Duchamp.
Pourquoi? Il a quand même changé peut-être les façons d'appréhender les choses, non? Ou il a copié quelqu'un lui aussi encore? Enfin, je veux dire, quand on va dans une exposition de Duchamp et qu'on trouve une roue de bicyclette qui tourne, on se dit, il n'y avait pas besoin de lui, peut-être, je ne sais pas. Ou un maître étalon, ça vous a choqué,
ces choses-là? J'ai surtout connu Duchamp en Amérique.
Oui, il y est.
Où il faisait son petit numéro. Chaque fois que j'étais invité chez des gens, il y avait Duchamp aussi. Alors les gens attendaient bouche bée. Et il sortait son mot. Et puis, après ça, il me regardait à dire, ben, je suis tranquille pour la soirée. Un des plus beaux moments surréalistes que j'ai vécu avec Marcel Duchamp, c'était à l'enterrement de son frère, de Jacques Villon, qui se passait à Puteaux. Et alors j'y vais avec Fresneau. Alors il y avait plein de militaires, plein de soldats. Et Fresneau me dit, ah, c'est encore un coup de carré, il a mobilisé la troupe. Puis pas du tout, c'est parce que il avait petit à petit, il a vu la Légion d'honneur, etc. Ah, il était monté en grade et je lui disais, Villon, ça vous jouera un mauvais tour. Et il était devenu, parce que carré,
le
poussé, lui non, lui, Villon, oh, ça me fait rien, il était exquis, Villon, de modestie. De... Je vous cite un mot de lui en passant, puis je reprends mon histoire.
Je vous suis.
Il me disait, je cherche la pierre philosophale. Et puis il ajoutait avec un bon sourire, dans la vie, il faut bien s'occuper. C'était tout vilain, oui. Ça.
Alors, et son frère ?
Bref, à cet enterrement, il y avait des tas de parachutistes.
Des parachutistes ?
Oui, parce qu'il était grand, croix ou quelque chose comme ça, la légende d'honneur. Le cercueil enveloppé dans le drapeau, un parachutiste, les jambes écartées devant l'église, avec pointant son arme sur le cercueil, etc. Et en sortant là, comme j'étais très lié avec Villon, je menais le deuil à côté de Marcel Duchamp. Et nous étions encadrés par des parachutistes en armes. Et je disais à Marcel Duchamp, quel effet ça vous fait, tous ces militaires ? Il était furieux. Il n'a pas été très chic quand on nous a demandé après de parler à la radio. Voilà. J'aimais tellement Villon.
C'était un grand peintre.
Oh, ben oui, c'est un grand peintre. Ça, c'est Carré qui l'a mis à sa place, quoi.
Donc, pour vous, il était plus important que son frère, qui est plus connu.
Oui. Oui, c'est... Bon, son frère a fait quelques tableaux. Mais
vous avez prononcé le
mot... Baser toute une vie sur le reniement de ce qu'on fait, c'est un peu facile. Enfin.
Mais vous avez parlé de surréaliste. Vous n'avez pas participé à ce mouvement. Vous l'avez
regardé. Je les ai toujours détestés.
Oui, c'est ça. À cause de l'idéologie, à cause... Parce que vous n'aimiez pas
l'uniforme. C'était les petits jeunes gens bien fringués qui jouaient à être...
Vous voulez dire que c'était Aragon et Breton étaient des
bourgeois. Oui, Aragon est même un bel écrivain.
Oui.
Breton, j'aime pas.
Vous n'aimez pas Breton ?
Non.
Vous n'aimez pas les papes ?
Je l'ai pas connu d'ailleurs. Mais bon.
Mais on peut pas.
Ce que j'aime pas, mais ce serait trop long à expliquer, c'est le surréalisme pictural, qui est à base de au fond de d'images. Et la peinture, c'est le contraire de l'image.
Mais vous ne pensez pas que le surréalisme d'images a ouvert les portes à tout ce qui allait se trouver après aux États-Unis, par exemple ? Le pop art, tout.
Je ne crois pas que ce soit le...
Non. L'âme, en Europe
non,
aussi.
Non, ce serait un peu long de parler de
ça. En tout cas, vous n'êtes pas pour ça. Alors, je reviens donc à votre parcours, parce que vous avez parlé de Léger, vous m'avez dit que c'est un... C'est vrai que le Léger qui est chez vous est un Léger assez exceptionnel.
Oui. C'est un Léger qu'il a fait en Amérique, et qui m'a donné à son retour d'Amérique.
Oui. Mais pour moi, qui suis qu'un modeste amateur de peinture, je n'arrive pas à comprendre ce que voulait faire Léger. Je veux dire, je suis tellement perplexe devant les différentes étapes de Léger que ça me laisse un
Léger,
peu...
vous savez, c'est ça. Il parlait toujours des classiques.
Ouais.
Et il dessinait, il a fait des dessins superbes.
Encore, les dessins.
Des dessins à la mine de plomb, extrêmement serrés, magnifiques. Des dessins d'objets, de manteaux, de mains. Il voulait me donner aussi ce jour-là, il voulait me donner un dessin de main. Et puis Carré était là, et il a dit, ça suffit comme ça. mais c'est un de mes amis qui a acheté ce dessin, finalement. Parce que ça valait rien à l'époque.
Mais est-ce qu'il a essayé d'être à la fois quelqu'un de rattaché au classique, puisque vous le dites, mais en même temps d'être dans l'air du temps ?
Bah, oui, il parlait beaucoup d'être des ouvriers.
Il était sincère.
N'empêche qu'il a dit, il y a une phrase que j'ai toujours aimée, parce que bon, nous avons travaillé côte à côte à Audincourt, par exemple, à Assy déjà, où il a fait la mosaïque de façade. Et là, je le voyais souvent.
Ça, c'était en 46. 45-46.
Il s'en sortait pas de la Sainte Vierge.
Ah oui.
Il me disait, les jolies femmes, c'est pas mon genre. Et je me rappelle que... Alors, il me montrait des dessins. Je me rappelle qu'une fois, il m'a dit, j'ai trouvé, je vais lui mettre des anglaises. Alors, comme tous les portraits qu'il faisait ressemblaient à lui, Léger avec son gros nez, c'était Léger avec des anglaises. C'était comique extraordinaire.
C'était lourd, alors.
Alors, finalement, il a fait un dessin très simple, très bien.
Ça a été inauguré en 46, je crois. D'Assy.
Ça a été le début de l'art sacré tel que le père Couturier l'avait institué, c'est-à-dire en demandant à des gens qui n'étaient pas forcément des chrétiens ou des enfants de cœur, comme Léger, c'est Dieu sait, de travailler pour l'Église.
Vous, par exemple, à un moment, dans la peinture française, vous aviez une place, et vous l'avez, je crois, toujours, singulière. C'est-à-dire qu'on n'est pas parvenu à vous coller une étiquette, à mon avis. On ne sait pas qui vous êtes dans la peinture, finalement.
Je crois que je suis, malgré moi, bien entendu, ça, parce que dans une tradition française.
Oui.
Parce que j'ai vécu dans la lumière de... ou de l'Île-de-France, ou de la Bretagne, etc., et que les peintres, ben, ils se nourrissent de lumière, d'espace, et puis aussi de... Parce que, évidemment, j'ai beaucoup dessiné au début dans les musées, au musée du Louvre, dessiné d'ailleurs, parce que, bon, j'étais intimidé, je ne pouvais pas faire la peinture. Mais je veux dire que ça m'a beaucoup apporté. Et je veux dire aussi que je dessinais aussi bien d'après Rembrandt que d'après Poussin.
C'est là que vous rejoignez Picasso qui s'amusait à dessiner d'après.
Oui, mais j'étais plus près de Braque parce que j'avais du mal. D'abord, je suis gaucher. Si j'avais dessiné de la main gauche, j'aurais été très habile, comme Léonard de Vinci ou comme... Je ne sais plus. Mais...
Donc vous avez appris le dessin.
J'ai toujours eu la passion du dessin, je continue. Mmh. Et je continue d'ailleurs à dessiner d'après nature.
Mais alors, par rapport à cette tradition française, qui au fond n'est pas unique, je veux dire qu'il y a plusieurs traditions françaises, tout de même.
Je crois qu'il y en a une, mais qui a toujours été, parce que c'est comme la France, qui a toujours été envahie.
Et qui a assimilé tout ça.
Il y a cette chose qui est unique, je pense, dans l'histoire du monde, c'est 10 siècles ininterrompus de peinture française. Et de peinture dont on suit la coulée et où on retrouve les mêmes choix, etc.
Je comprends, mais quand on parle de vous rapidement dans un dictionnaire, par exemple, ou dans un livre, on ne peut pas dire que vous êtes un figuratif, bien entendu. On ne dit pas un non figuratif, on ne dit pas abstrait. Là où ils sont d'accord à peu près, c'est dire il a fait de la peinture monumentale, il a fait des fresques, il a fait alors de la mosaïque, ça tout le monde est d'accord.
Bah oui, oui. Mais
c'est là, cet objectif-là. Oui. Mais là, où est-ce que vous êtes dans tout ça, vous?
En 1949, j'ai publié un livre qui était un livre de combat, oui, qui s'appelait « Notes sur la peinture d'aujourd'hui », et où je m'opposais aux purs abstraits, si vous voulez, que c'était des gens que j'aimais bien, comme j'ai très aimé Cartoon, bon. Mais je disais que nous tenions toutes nos fibres à la lumière, à l'espace, aux arbres, aux femmes qu'on a aimées, et que... Alors, j'avais remplacé le mot abstrait par le mot incarné. Et je continue. Enfin, je veux dire que toute ma peinture, je crois, et les gens, ça m'a fait assez plaisir, ils l'ont senti à ma rétrospective au Grand Palais.
L'année dernière.
Oui, l'année dernière, parce que les gens, beaucoup de gens m'ont écrit, je ne connais pas, et tous me parlaient de ce que ça leur avait apporté par rapport au monde. Ils ne parlaient pas abstraction du tout, parce que, bon, ma peinture, on ne reconnaît rien, c'est autre chose. Mais les gens ont senti en quoi c'était incarné.
Alors, si je vous parle de foi, vous répondez ?
De
la foi.
Oh, ben, c'est... vous savez, bon, ben, Léger n'avait pas la foi. Oui. Moi, j'ai eu la foi de mon enfance. Mais...
Incarner c'est un mot ambigu, ou alors c'est un mot très riche, comme on voudra. Mais...
La foi, c'est la spiritualité, enfin, au fond.
C'est le monde sensible aussi.
C'est le monde sensible en même temps. Oui.
Mais alors, vous, par exemple...
Le Christ aussi s'est incarné.
Bien sûr. Mais quand vous parliez de peinture et de fresques de Léger, nécessairement, indépendamment de votre maîtrise, de votre talent des uns et des autres, c'était nécessairement, encore une fois, différent, parce que vous, vous y ajoutez une notion d'incarnation.
Ah, mais Léger aussi, il se donnait pas... Si, il faisait quelquefois des tableaux, mais il le disait, ah, je vais faire une toile abstraite, bon... Mais en général, il parlait très concrètement, et puis il avait, comme je vous l'ai dit, il avait beaucoup dessiné, et admirablement.
Mais vous-même, quand vous êtes attaqué à la mosaïque, est-ce que c'est un art de notre temps, la mosaïque ? La mosaïque.
Pourquoi pas ?
D'abord, on ne construit plus beaucoup d'églises.
Oui, mais la mosaïque, j'en ai fait une dans le métro.
Oui, à Cluny.
Et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, d'ailleurs, parce que c'est...
C'est une commande de l'État, là.
C'est une commande de Jacques Lang. Oui. Et je lui avais dit, moi, je voudrais faire quelque chose dans un lieu où tout le monde passe. Alors, il m'a dit, voulez-vous une station de métro ? Et j'ai cru qu'il rigolait d'abord. Et puis bon, moi, j'ai eu la confirmation par Mollard.
Claude Mollard,
et,
oui.
Et j'ai eu une station superbe, parce que c'est une station à trois voies, et qui a une voûte admirable. Qui est à la fois caverne et église. J'ai pensé aux deux. J'ai pensé à Lascaux et j'ai pensé à une voûte d'église. Et j'ai fait cette station qui est la seule station qui est de l'ordre spirituel, si vous voulez, avec ces deux grands oiseaux qui sont les oiseaux de l'esprit, comme ceux de Braque d'ailleurs. Et puis les signatures de. 55 parmi les gens qui ont vécu dans le quartier, parce qu'autrement, évidemment, je vais me faire les 10 stations.
C'est une station à trois voies aussi, je crois.
C'est une station à trois voies, c'est pour ça que la voûte est si belle. Et alors, j'ai passé 6 mois sous terre, j'ai attrapé une arthrose.
Mais qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ? C'est un défi que vous vous donniez à vous-même ? Qu'est-ce que vous aviez besoin d'incarner ?
J'avais envie de...
Qu'est-ce que vous vouliez incarner, alors ?
Non, mais alors, la peinture est un art très solitaire. On est là tout seul, toute la vie. Le tableau, ça... Il file dans l'espace, bon... Et on ne sait pas où il va... Alors, il y a des moments où c'est agréable d'abord de travailler avec d'autres, avec des artisans, comme c'est le cas pour les vitraux. J'ai vu plus de vitraux, j'en ai encore en ce moment en train. Et puis, de travailler pour tout le monde, quoi.
Mais alors, vous dites que l'artiste est un être seul, c'est vrai, mais en même temps, par rapport aux gens de théâtre, par rapport à un auteur dramatique, par exemple, l'artiste a une chance formidable, c'est qu'il, si on croit vos souvenirs des uns et des autres, c'est que vous vous rencontrez beaucoup dans les ateliers et qu'il y a quand même une certaine complicité. Vous m'avez parlé un jour de Giacometti, il y avait une complicité.
Oui, ouais, bah oui, bah, mais on ne se rencontre pas tellement. Giacometti, il était mon voisin,
oui.
Et nous étions aussi mal installés l'un que l'autre à l'époque d'ailleurs. Et bon, on se voyait souvent, mais...
De quoi parlent les peintres quand ils se rencontrent alors qu'ils n'aiment pas la peinture l'un de l'autre ? Je veux dire, il y a aussi un tableau de Delaunay ici chez vous.
Je ne rencontre pas les peintres dont j'aime pas la peinture.
Vous rencontrez des peintres dont vous aimez la peinture quand même ?
Je ne veux pas citer les peintres dont j'aime pas la peinture.
Ah, je ne vous les demande pas.
Il y en a un certain nombre.
Oui. Mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose ?
Les gens que j'aime, Manessier qui est mon voisin, d'ailleurs on peut passer des mois sans se voir... Oui. Je vois son atelier de ma chambre.
Ici, à Clamart, là, vous voyez son atelier ?
Il habite à 40 mètres d'ici. Ah.
Et vous aimez sa peinture ?
Ah, bah oui.
Et Delaunay, par exemple, il y a un joli tableau.
Delaunay, j'aimais beaucoup. Ça, c'est Sonia.
Oui.
J'étais très lié avec Sonia. Et alors, Sonia, à la fin de sa vie, je la voyais, elle me téléphonait. Elle me disait, Bazaine, venez me voir, on parlera peinture. Parce qu'elle ne parlait que peinture. Voilà. Et avec son mari, il paraît qu'il ne... Je crois que c'est Apollinaire qui a dit ça. Ouais. Il parlait peinture toute la journée. Alors j'allais dîner avec elle et on parlait peinture. Et pour le reste, bon, si son ascenseur ne marchait pas, elle téléphonait au président de la République. Alors, c'était tout le reste.
Vous m'avez parlé de Caillois, ce livre que vous avez voulu faire ensemble et qui a tardé à sortir. Donc vous avez été quand même un homme d'ouverture sur les autres arts, pas seulement la peinture, la sculpture, sur la littérature. Je sais que vous êtes très pointilleux sur la langue française.
J'ai beaucoup lu dans ma vie et que j'aime les lettres.
C'est l'ancien licencié de philosophie qui n'oublie pas ce...
Non, ça n'a rien à voir.
Rien à voir.
C'est comme ça, parce que ça, la philosophie m'intéresse.
Quels sont les poètes que vous avez connus et aimés, contemporains, je veux dire, vieux?
Les écrivains.
Les écrivains. Frégnaud. Follin.
Follin, je l'ai bien connu, oui.
Et Jean Follin aussi.
Je lui disais d'ailleurs toujours qu'il ne s'y connaissait pas en peinture. Alors il me disait, mais dites-le-moi encore une fois et je cesserai d'écrire. Mais je vous le dis. C'est un culot incroyable.
Et Jean Follin?
Ah ben Follin était un ami aussi. Oui.
Ça c'est un poète.
J'ai connu même longtemps avant la guerre. Je me rappelle des retours le soir, des promenades le soir avec lui. Il avait un chapeau melon enfoncé jusqu'aux oreilles. Et puis...
Jean Tardieu aussi, je crois que vous avez bien connu.
Ah ben, Tardieu, Tardieu, Frénaud, c'est comme mon frère.
Chez vous, il y a une esquisse de Tardieu, on voit le regard.
Oui, c'est ça.
C'est assez impressionnant.
Oui, oui. Ah ben, j'ai fait les portraits, donc de Frénaud, de Tardieu, de... Ah, non, m'échappe en ce moment.
Vous avez connu Marcel Arlan aussi, je crois.
Arlan, j'étais très lié, oui, avec Arlan. J'ai fait les portraits de lui, d'ailleurs. C'était difficile, parce que Arlan était un homme... C'est même assez curieux, hein, sur le portrait. Parce que Arlan, bon, il m'avait demandé de faire une illustration pour un de ses livres. Et je lui avais dit, je vais faire votre portrait. Alors, on s'est mis en face de l'autre, et nous étions aussi coincés l'un que l'autre. J'en sortais pas. Après, j'ai fait des portraits de mémoire, c'était déjà mieux. Et à la fin, j'ai fait une gravure, c'est-à-dire j'étais dans le noir, et j'ai fait une gravure, et c'était lui. C'est-à-dire, moins je le voyais, et plus c'était... Enfin, il avait fallu sans doute tout ce travail.
Mais vous êtes un homme ouvert aux arts, mais vous ne m'avez jamais parlé. Enfin, on ne se connaît pas beaucoup. Hein, mais
Georges Clairaut, c'était très lié.
Oui. Et les musiciens? Vous ne parlez pas de musique?
À jeune fois, il y avait Jolivet, mais je n'avais pas d'atome crochu avec lui. Bon, il y a. Si vous faites sortir des noms, je n'y arriverai pas.
Mais est-ce que la musique est importante pour vous,
je veux dire.
La musique?
Ah, énormément.
Énormément.
J'en écoute toute la journée.
Oui.
Je travaille en musique tout à jour.
Comme musique de fond, alors? Musique d'ambiance?
Oui, non.
Vous savez que les puristes sont contre.
C'est-à-dire qu'il y a des moments où, bon, je préfère le silence. Quand je dis toute la journée, c'est un peu exagéré. Mais j'ai la passion de la musique.
Bach, Mozart?
Oui, mais c'est plutôt les classiques.
C'est ça, oui.
Et puis que je connais par cœur. Bach, Mozart, et la musique du Moyen-Âge. Alors j'ai la passion de la musique du Moyen-Âge parce que c'est la naissance.
Mais pas la musique contemporaine. Elle vous fait problème?
Elle m'empêche plus de travailler.
Moi, je suis de ceux, peut-être que je me trompe, qui disent qu'il y a un moment, la peinture est arrivée à une sorte d'impasse et À ce moment-là, comme par hasard, l'homme a inventé la photographie qui a permis la reproduction et qui a permis, de l'autre côté à la peinture, d'aller dans d'autres voies. Et pour la musique, il y a eu peut-être un peu la même chose. Vous ne pensez pas ?
Non, en tout cas, pour la peinture, je ne vois pas. Vous voyez pas, parce que la photographie a été inventée quand ? Au milieu du 19e siècle.
C'est ça.
Et que... Il y avait des sacrés peintres.
Je dis simplement que l'art de la reproduction, enfin, de l'imitation, la peinture n'avait plus besoin de remplir cet office-là.
C'est Cocteau qui a dit ça, la photographie a libéré la peinture.
Ah oui, il a dit ça.
Oui.
Mais vous n'êtes pas d'accord ?
Oh, je trouve ça facile.
Oui, je trouve ça facile.
Moi, la photographie, j'arrive pas à voir...
Ce qu'elle a pu apporter.
Je ne sais pas très bien ce qu'on peut appeler une belle photographie.
Mais
le mot de beauté... Oui. Bon, il y a des photos qui m'émeuvent, sur le plan de la réalité, etc. Mais une belle photo, je ne sais pas bien ce que c'est.
Vous avez connu Man Ray ?
Non.
Non. Mais par exemple, quelles sont les photos ?
Cartier-Bresson, c'est un vieux camarade que j'aime beaucoup.
Et vous trouvez que ce n'est pas une belle photo, Cartier-Bresson ?
Ah si, c'est
une belle photo. Ou une trop belle photo ?
Il disait toujours, c'est cadré.
C'est cadré, ouais. Voilà. Mais là, par exemple, on a une photo de vous, qui est d'un grand photographe contemporain, Robert Boileau.
Les autres sont mieux. Hein.
Les autres sont mieux.
Vous avez vu les autres ?
Oui, je l'ai vu, mais moi je trouve que c'est une belle photo. Et ça dit beaucoup de choses.
C'est pas la vie de mes amis, un peintre qui n'a pas de main. Et qui a un truc dans le derrière pour le soutenir.
Oui, mais qui a un regard quand même droit.
Un ami ce matin, vieil ami, Philippe Paul Boncourt,
oui.
Qui m'a dit « Ah ben mon vieux, ce que tu fais vieux là-dessus...
» C'est pas une amie alors.
Si, c'est
une amie, dire les choses
toujours. Vous avez vu à mon mur ce truc que j'ai ressorti de la poubelle, ou presque, qui est tellement chargé bon, que... Et puis finalement, je trouve que c'est pas si mal, maintenant. En perdant ça, j'ai perdu des choses. Mais ça, l'évolution se fait malgré soi. Les blancs ont pris chez moi une énorme importance, mais pas comme des trous, justement, mais comme quelque chose d'irradiant et d'assez dramatique même, je crois. Parce qu'on dit beaucoup que je fais de la peinture gay, ça, alors, je ne comprends pas du tout. Mais ça ne veut rien dire pour moi, d'ailleurs, la peinture gay. C'est comme les gens qui, toute proportion gardée, comme si on disait que Mozart est gay. Ouais. Alors que la mort court dans toute son œuvre.
C'est la première fois qu'on a employé le mot.
Que ?
Le mot mort, c'est la première fois qu'on l'a utilisé.
Depuis que nous parlons ?
Oui,
bah
curieux.
Oui.
Est-ce que vous peignez de plus en plus vite ?
Ah non. Il y a de moins en moins de choses sur ma toile. Vous savez, bon, encore un mot de Braque. Il montrait sa toile blanche, enfin, à moi, et il me disait, ben voilà, c'est à ça qu'il faut arriver. Et je comprends très bien, à cette espèce de pureté et d'unité...
Mais au fond, alors, chaque fois, je voulais vous poser la question, et je voulais citer ce nom, et je ne l'ai pas fait, parce que, bon, je sais que vous l'avez dit assez souvent, là, vous êtes un homme non pas du classicisme, mais un héritier des classiques, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes dans l'héritage des classiques, mais vous n'êtes pas pour le classicisme, c'est évident.
Bah, ça n'est pas son sens, c'est le pompierisme, évidemment. Voilà.
Et vous avez vu des choses, et des gens bouger, des choses qui étaient pour vous peut-être un peu fausses, frelatées, d'autres qui étaient des contestations, on ne sait jamais. Alors, je me disais, et si je parlais d'Yves Klein, je n'ai pas dit le nom d'Yves Klein, et je pensais à son une exposition bleue, je suis allé à un vernissage d'Yves Klein, et il avait peint la chambre en bleu.
Oui.
Alors, je n'ai pas osé vous le dire, et là vous me parlez de bras qui dit peint en blanc, je ne vois pas tellement la différence.
Pas en blanc, c'était la toile même.
C'est ça, je ne vois plus tellement la différence du coup, presque. Presque. Je suis de mauvaise foi. Je suis de mauvaise foi.
Oui, je ne suis pas un admirateur forcené de Klein.
Ben, je m'en doutais. Je m'en doutais. Vous n'aimez pas la provocation,
un peu fabriqué.
Et la provocation.
Et puis il y a une volonté de provocation. Voilà. Et dès qu'il y a une volonté de quelque chose dans une peinture, ça je l'ai écrit, vous n'y couperez pas.
Non, mais avec plaisir, absolument, oui.
Dès que la peinture veut dire autre chose qu'elle-même, alors elle ment. Ou elle se trompe, ou elle... C'est la condamnation de la peinture réaliste socialiste, bien entendu, d'abord. Mais un tableau, figuratif ou non, d'ailleurs, c'est le tableau même qu'il cherche à être, mais rien d'autre.
En somme, vous êtes pour la provocation naturelle.
C'est-à-dire que si on est sincère, je ne crois pas faire une peinture de provocation. Nous parlions de Mata tout à l'heure. Lui, il fait une peinture de provocation. Ça ne me gêne pas, mais...
Mais vous êtes ailleurs. Hein? Vous êtes ailleurs.
Moi, c'est... Oui, évidemment.
Est-ce qu'on peut rester un homme seul longtemps, même quand on est un artiste?
Est-ce qu'on peut rester un homme seul?
Seul, avec sa solitude longtemps, même quand on est un artiste.
Moi, je suis seul... Je suis seul toute la journée, d'abord. Je vous l'ai dit, je crois. Je tiens à avoir mes journées... Savoir que je ne verrai personne entre 8h du matin et 6h du soir.
Heureusement que vous ne m'avez pas dit tout ça.
Il y a des exceptions.
Mais je ne viendrai pas tous les jours. Mais c'est pour dépouiller les choses, pour mieux réfléchir ou pour être libre, tout simplement.
C'est les deux. C'est l'un et l'autre. De même que je reviens à la musique. C'est pas seulement pour la musique. J'en ai parlé, je me rappelle, une fois avec en Tchécoslovaquie, avec un peintre merveilleux dont j'ai maintenant oublié le nom, qui était très célèbre là-bas, et qui est venu me voir quand j'étais là-bas, et qui m'a dit vous aimez la musique, oui, et vous faites la musique pour... Alors il me dit, moi aussi. Alors, pourquoi aimez-vous la musique? Alors je lui dis, c'est pour être encore plus seul. C'est-à-dire pour m'entourer. Alors il m'a serré la main, il m'a dit moi aussi, puis il est parti.
Mais personne n'a ajouté pour être seul avec Dieu. Personne n'a... Dieu, non.
Non,
vraiment pas. Non, parce que à un moment donné, on change d'avis. Non, vous, non, ça va.
Il me dérange pas en tout cas.
Voilà un mot
Je trouve qu'il s'est très mal débrouillé, très maladroitement avec la terre.
Voilà un mot que je citerai un jour dans mes souvenirs. Dieu, il ne me dérange pas, a dit Jean Bazin.
C'était Mémoire du siècle, Jean Bazaine, par Lucien Hatoun. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 octobre 1992. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr.